Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumani.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Se portent les relations entre le Mali et ses partenaires. C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Quel est le bilan des relations entre le Mali et ses partenaires? Quels sont les pays qui peuvent aider les autorités de la transition à faire face aux défis auxquels le pays est confronté? Les échanges avec la Russie, l'Iran, la Turquie vont-ils changer quelque chose? Trois invités du Grand Dialogue de Studio Tamani tenteront de donner leur avis et analyse sur ces questions. Aujourd'hui, nos invités sont M. Boubacar Boukoum, politologue. Il a un parti politique maintenant qui s'appelle PAIS, Parti africain d'intégration et de la souveraineté. Je prononce bien, M. Boukoum.
Parti africain pour l'intégration et la souveraineté.
Pour l'intégration et la souveraineté. À ses côtés, nous avons M. Sékou Oumar Koulibaly du parti FMR Faso Dambé. C'est bien ça, M. Koulibaly.
C'est bien ça. Le Front malien du Renouveau. Voilà, Faso Dambé.
Ok. Moussa Nabi Diakité, qui est membre du mouvement politique de la génération engagée. Bonsoir et bienvenue.
Merci bien.
Moi, je suis Mariam Koulibaly. J'aurai l'honneur de vous présenter ces débats. À bientôt.
Le Grand Dialogue.
Alors, nous allons nous adresser à M. Boubacar Boukoum. Et quel est le bilan des relations entre le Mali et ses partenaires aujourd'hui?
Mais attendez, vous savez, quand vous posez des go comme ça, le bilan mm-hmm. est tellement vaste qu'il est difficile de l'évaluer. Okay. Aujourd'hui, ce qui est d'actualité, c'est notre relation avec la France. Mm-hmm. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Sinon, nos relations avec les autres pays ont toujours évolué dans le bon sens. Et le Mali est une grande nation de diplomatie. Parce que quand vous regardez déjà dans notre constitution où le Mali acte l'intégration africaine, pour dire que nous sommes prêts à renoncer à une partie ou sinon la totalité de notre souveraineté pour réaliser l'intégration africaine, vous comprendrez aisément que c'est un pays relativement ouvert, très hospitalier, qui accepte déjà dans ses préceptes depuis la charte de Kourou-Kanfouga d'être dans une dynamique de la relation internationale. Donc le pays est un pays très ouvert et qui a de très bons rapports diplomatiques avec toutes les nations du monde. Donc ce genre de pays ne peut pas être dans une difficulté relationnelle avec d'autres pays. Donc civilisationnel, culturel, structurel et politique, aujourd'hui nous sommes dans une dimension où nous avons de très bons rapports avec nos différents partenaires. Maintenant, il est à noter qu'avec la crise que nous connaissons récemment, la nature des relations avec un pays historique comme la France, les relations historiques que nous avons avec la France, change un peu la perception de notre diplomatie, simplement du fait que ce que nous avons connu avec la France n'était pas une relation choisie, c'est plutôt une relation subie. Parce que quand nous regardons le processus du colonialisme et arriver à nos indépendances que nous avons pu obtenir de façon très difficile, et ensuite les relations qui ont sous-tendu les relations entre le Mali et la France coloniale de l'époque a fait qu'effectivement nous étions inféodés à un certain système de gouvernance par ricochet. Ça veut dire que techniquement la France avait une emprise importante, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan monétaire et que ce soit sur le plan politique. Ils avaient une emprise très très importante sur la gouvernance chez nous. Ce qui faisait qu'effectivement pendant très longtemps, même nos chefs d'État passait par un casting fait au niveau de la France pour permettre effectivement d'être au pouvoir dans nos pays. Et ceux qui se sont opposés généralement, soit on a saboté leur économie, soit on les a assassinés, soit on a procédé à des coups d'État. Et tout ça, c'est la France qui l'a organisé, notamment à un moment donné de l'histoire à travers un certain Bob Denard. Donc aujourd'hui, le paradigme est de dire que la transition est en train de mettre fin à cette emprise de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Et derrière ça, effectivement, il y a une crise qui va se propagé très rapidement à cause de l'alchimie qui existe entre la France et certains pays qui sont en train de supporter la France dans le système des Nations Unies et dans le système occidental, notamment l'OTAN, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que le Mali est en difficulté par rapport aux relations internationales. Mais loin s'en faut, on est en train de glisser très progressivement vers le renouveau du partenariat mondial qui était adossé au système des Nations Unies, qui quand même date de 1945, à un moment où beaucoup de nos États n'avaient pas leur indépendance. Donc de ce point de vue, la prise en compte des intérêts du continent africain n'était pas suffisamment prise en compte. Et donc, 1945 était le parachèvement du mécanisme de 1885 qui a consacré quand même le partage du continent. Donc aujourd'hui, il s'agit juste d'un renouvellement de nos partenariats. Il ne s'agit pas d'une crise profonde. Il s'agit de dire qu'aujourd'hui, nos États essaient de s'affirmer, de réaffirmer leur indépendance et d'aller vers de nouvelles négociations pour un nouveau équilibre mondial.
Alors, M. Sekou Omar Coulibaly, M. Boubacar parle de renouvellement de partenariat. Vous êtes du même avis que lui?
Ah, tout à fait. Parce que de l'indépendance à maintenant, le paradigme a changé. Aux premières heures de l'indépendance, on était face à un monde partagé entre deux blocs, le bloc de l'Est, représenté par l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, dont la Russie est issue, est l'émanation, oui. Il y avait le bloc occidental, voilà, représenté par les États-Unis, la France, voilà, et d'autres pays. Mais le Mali, depuis 1961, depuis la conférence de Belgrade, était dans les camps de ce qu'on appelle les non-alignés. Bon, non-alignement ne voulait pas dire neutralisme. C'était quand même un jeu d'équilibre pour pouvoir nous imposer, réaffirmer notre dignité et prendre des décisions courageuses, même si ça allait à l'encontre d'un bloc ou bien d'un autre. Bon, maintenant, de l'indépendance jusqu'en 1991, date à laquelle la Deuxième République a pris fin avec la chute de Moussa Traoré, qui est même d'ailleurs la conséquence du sommet de la boule organisé par la France. Voilà, donc la France a décidé lors de cette conférence de boule d'annexer son appui aux États africains à leur niveau de démocratisation. Donc c'est ainsi qu'on nous a imposé, entre guillemets, la démocratie à l'occidental, alors que nous avions notre démocratie depuis la charte de Kourou-Kanfouka. Donc ça a été vraiment un changement de paradigme. Donc à la faveur de ce système de démocratie, on a compris que le bloc de l'Ouest, représenté par les États-Unis et la France, ont voulu quand même nous imposer leur modèle de gouvernance, de gestion. Donc à la faveur de cette démocratie également, ils ont pu quand même essayer de mettre à la tête de nos États, c'est pas l'apanage du Mali-Sahel, à la tête de nos États, des dirigeants qui étaient favorables à leur cause et qui faisaient leur politique.
Voilà. Ce n'est plus le cas aujourd'hui?
Bon, pour ce qui concerne le Mali, ce n'est plus le cas. Parce que le Mali est à la croisée des chemins. On est vraiment devant une situation de changement de paradigme, comme l'a si bien dit M. Boukoum. Il va falloir repenser tout ça. Ce n'est pas aux autres quand même de nous imposer leur modèle. Nous sommes vraiment assez mûrs, assez capables pour pouvoir réfléchir pour nous-mêmes, agir pour nous-mêmes et coopérer avec qui nous voulons en défendant notre intérêt dans un partenariat gagnant-gagnant, de win-win.
Moussa Navi Diakité, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du partenariat entre le Mali et la France? Pensez-vous que c'est au beau fixe?
Ben, comme toutes les collaborations et coopérations, parfois, il y a des moments où elles sont tendues, il y a des moments où elles sont au beau fixe. Et je crois que nous avons connu des moments où c'était au beau fixe, où nous avons bénéficié depuis l'aube des temps, quand même d'un accompagnement qui, au lendemain de l'indépendance, était égal. Surtout avec le départ de l'armée française en 61, la création du franc malien en 62, et surtout avec l'affirmation de notre dignité face à toutes les entraves que la France peut-être avait orchestrées, avec notamment l'éclatement de la Fédération du Mali avec le Sénégal, pour récupérer le Sénégal. Et c'était des moments tendus, mais qui peut-être vers les années 65, et commençait à revenir, puisque le Mali commençait à démarcher déjà la France pour une réintégration de la zone franc et moi. Donc ça veut dire que c'était un partenariat où peut-être à un moment donné, il y avait interdépendance que nous avons senti en quelque chose. Et maintenant, ça s'est accentué avec l'avènement de la démocratie, où peut-être d'autres jugeront que nous avons essayé de ressembler à une démocratie modèle occidentale, sachant très bien que nos États, comme l'a rappelé un certain Laurent Gbagbo une fois, ont toujours été fondés sur la démocratie. Parce que nous sommes quand même des pays multisectoriels, des melting pots, où se rencontrent plusieurs cultures. Donc la démocratie était la mode de gestion par excellence de nos États. Même si c'est vrai, peut-être nous avons connu des crises ici et là, entre les communautés et les ethnies. Mais quand même, nous étions là et nous étions démocratiques. Maintenant, cette coopération-là s'est avérée, a avéré ses forces et ses faiblesses. ses faiblesses peut-être ont été l'assujettissement de trop de nos autorités qui peut-être parlent à notre nom à chaque fois. Maintenant, à un moment donné, quand même, il faut voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à voir aussi vraiment ces obus fixes et à prendre certaines décisions qui ne vont pas notamment dans le sens de l'accalmie. Et peut-être aujourd'hui, ce n'est pas une démocratie, une diplomatie agressive, mais peut-être une diplomatie responsable qui se restructure sur l'essentiel prioritaire qui est celui du Mali, l'intérêt du Mali. Et cela peut-être ne va pas dans le sens de la vision de la France et peut-être nécessite peut-être une rupture de certains pans de notre coopération, mais pas totalement une rupture, comme je ne le dirais pas ainsi, mais peut-être que nous avons besoin d'exprimer certaines choses, d'éclaircir certains axes de coopération, d'éclaircir certains dits et peut-être de nous affirmer davantage. C'est pas au beau fixe, mais c'est pas aussi totalement rompu que ça.
Exprimer certains axes de coopération. Alors, ça va nous amener à poser la question, à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il y a des points qui n'ont pas marché et qui nous poussent et qui nous amènent vers ce chemin aujourd'hui?
D'abord, il faut comprendre que le déterminant dans une nation, c'est d'abord l'économie. Fondamentalement, l'économie a été toujours au centre des différentes convoitises. Et nous, en tant que continent africain, nous avons eu la chance et le privilège divin d'avoir beaucoup de ressources sous nos terres. Et depuis 1496, à travers le roi Henri VII de l'Angleterre, donc toute l'intelligence du système néocolonial est conçue à partir de l'Angleterre, adossée au christianisme et au catholicisme. Donc, il y avait ce qu'on avait appelé la doctrine de la chrétienté, du titre de propriété des païens et des infidèles, qui avait été élaboré par le roi Henri VII et qui a donné une lettre patente à la famille Cabot pour essayer d'aller vers l'exploration et aller chercher des ressources. Donc, le combat mondial pour ces pays occidentaux, ils sont constamment à la conquête des ressources naturelles. Et ça, on va l'obtenir vaille que vaille. Donc, si les vassaux ne sont pas là pour effectivement collecter ces ressources, cela pose énormément de problèmes. Donc, il faut comprendre que ce mécanisme économique qui souvent est à la source de nos crises, des différents chantages occidentaux, c'est pourquoi le problème de la monnaie est central. Parce que nous subissons, par exemple, un chantage du Limoi parce que la monnaie est la clé de la stabilité d'une nation. De ce point de vue, le politique, qu'est-ce qu'il fait? Il répond à la demande des citoyens. La demande fondamentale du citoyen par rapport à la conception économique sur la base de la pyramide de Maslow, c'est de dire que les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin de travailler. Donc, c'est les besoins essentiels. Alors, si un politique ne parvient pas à répondre aux besoins essentiels, forcément, vous êtes face à une révolution. Parce qu'on attend de vous que vous puissiez résoudre un certain nombre de problèmes. Et elles sont économiques. Aujourd'hui, quand vous parlez de la sécurité, c'est de l'argent que vous injectez pour la formation des soldats. Quand vous parlez de l'équipement, c'est de l'argent. Donc, tout est économique. Donc, si de ce point de vue, vous ne contrôlez pas votre économie, vous ne contrôlez pas la masse monétaire et que cela est commandité par quelqu'un d'autre, donc forcément, vous êtes en porte-à-faux avec les relations que vous avez avec ce pays. Donc, de ce point de vue, c'est vrai que depuis un certain temps, nous avons compris que ce qui n'a pas marché, c'est quoi? Aucun de nos dirigeants, d'abord, politiquement, administrativement, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dupliqué le modèle néocolonial. C'est-à-dire que notre administration n'est pas allée écouter les populations pour comprendre comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment ils fonctionnent pour adapter la gouvernance. On a toujours continué à dire la loi s'impose, on a toujours continué à dire que nul n'est censé ignorer la loi. On a fait des concepts qui répondent exactement. Le colon, en partant, la façon dont il a gouverné par l'administration, après les indépendances, on est revenu à la même chose. Donc, le peuple ne se reconnaît pas dans la gouvernance. Ça, c'est le premier axe. Deuxième élément, pour répondre aux besoins des citoyens, il fallait développer un certain nombre de secteurs d'activité économique qui allaient permettre aux gens de pouvoir vivre de façon digne et de façon décente. Malheureusement, à cause du système financier mondial auquel nous sommes arrimés, l'ajustement structurel qui est venu désarticuler tous nos mécanismes a fait que nous n'avons pas pu recruter suffisamment de cadres pour créer de la richesse. Les mécanismes aussi qui nous ont été donnés par des pays à l'époque du bloc de l'Est comme étant des instruments économiques ont été sabotés par les uns et les autres, ce qui fait qu'effectivement, la population n'a pas pu avoir les résultats escomptés en termes de création de richesses et de partage de richesses. Maintenant, on s'est retrouvé à un modèle qui se disait démocratique, mais qui est devenu un modèle injuste, qui est imposé non seulement à partir du sommet de la boule, comme il l'a dit, mais dans un dessein purement et simplement de piller nos États. Donc, du coup, les richesses s'en vont. Pendant que nous observons les richesses partir et nous-mêmes n'avons pas de richesses, forcément, cela crée le nationalisme des ressources. Donc, forcément, il y a une contradiction entre ce que nous attendons de nos dirigeants et ce qui est possible. Et cela n'a jamais été possible pour nos dirigeants parce que, comme je l'ai dit tantôt, le casting est fait en Europe. À partir de là, les intérêts européens sont préservés au détriment des intérêts nationaux. Donc, on s'est trouvé toujours dans cette dynamique qui faisait que la population qui rêvait de démocratie, on a rêvé de démocratie, mais en fait, on n'a jamais bénéficié d'une démocratie réelle parce que les richesses n'ont jamais été partagées de façon juste et équitable. Donc, on s'est trouvé face à des dirigeants qui venaient, soit ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement la démocratie, on vient par des élections, mais on vient par des élections parce qu'on a suffisamment volé de l'argent, parce qu'on a été suffisamment appuyé par ceux qui détiennent la monnaie, ou autrement, accidentellement, on tombe dans un coup d'État. Donc, c'était les deux façons. Donc, aujourd'hui, politiquement, ce n'est pas possible d'être président, par exemple, juste par un programme, juste par des idées. Il fallait être coaché et parrainé par ceux qui sont en Occident. Et l'autre chose, une fois que le système a atteint ses limites, la révolution populaire fait que l'armée vient dans l'arène et prend le pouvoir. Et en ce moment, c'est encore ces mêmes institutions comme la CEDEAO qui s'empressent de dire « il faut dégager, il faut qu'on revienne au modèle démocratique » qui n'en est pas réellement un. Donc, les attentes, elles sont là. Aujourd'hui, vous avez 748 communes au Mali. Vous n'avez pas un médecin par commune.
803.
803 déjà. Waouh, décidément. Je suis un peu en retard. Alors, 803, est-ce qu'on veut me faire croire qu'on n'a pas 803 médecins formés par l'école de médecine?
Bien sûr.
Donc, on n'a pas un médecin par commune. Alors que le développement commence effectivement par ces éléments qui sont essentiels. Donc, chaque année, l'école de médecine forme des gens qu'on met dans la rue. Simplement parce que le FMI et la Banque mondiale nous tiennent à la gorge. Et le FMI et la Banque mondiale, c'est une arnaque internationale adossée par le système franco-américain. C'est pourquoi l'une des institutions est dirigée par la France et l'autre institution est dirigée par les États-Unis. Parce que l'intelligence de l'OTAN, qui est adossée au triangle Angleterre, France et États-Unis, est un système de prédation économique, ce qui a permis aux États-Unis de se cacher derrière la France, qui n'a pas les États-Unis se cachent derrière la France parce que les États-Unis n'ont pas de colonie en tant que telle.
Nous allons donner la parole à Monsieur Koulibaly.
D'accord, je conclue en disant juste que la France, dans ce mécanisme, effectivement, permet aussi d'enrichir les États-Unis. Donc, comprenons seulement que le problème, il est économique. Et tant que nous n'aurons pas réaffirmé cette souveraineté économique, nous serons toujours en difficulté.
Alors, M. Sekou Omar Koulibaly, une mauvaise répartition des ressources humaines, pensez-vous que c'est la raison du réveil des consciences aujourd'hui des Maliens?
Mauvaise répartition des ressources humaines, ça c'est... Des ressources naturelles, on va dire, ça c'est un fait. Mais pour moi, le goulot d'étranglement, ça c'est la gouvernance. Il faut repenser la gouvernance. Il faut que nos pays soient bien gérés. Mais au départ, déjà, on a fauté. C'est-à-dire, notre façon d'aller à la décolonisation, ça laisse un peu à désirer. Quelqu'un a parlé de la Fédération du Mali, mon ami, Diakité. Voilà, la décolonisation du Mali, la décolonisation de l'Afrique occidentale, il y avait la Fédération du Mali entre le Soudan français et puis l'actuel Sénégal, qui a volé en éclats après quelques mois seulement d'existence. Donc ça a été un mort-né. Mais au départ, ce n'était pas que ces deux pays-là. Il y avait la Haute Volta, il y avait les Dahomey, l'actuel Bénin. Mais la France, qui était quand même le colonisateur, le colon, est passée quand même par un autre pays, un chef d'État quand même de la région, quand même pour faire voler cette fédération qui était en gestation. Donc du coup, à l'événement, nous sommes retrouvés avec des États balkanisés. Et quand on est faible, vraiment on est fragile. Économiquement on est fragile, politiquement on est fragile. Un autre point est vraiment notre indépendance monétaire. Notre indépendance monétaire. Bon, quand on compare les ex-colonies françaises aux ex-colonies britanniques, on peut dire que les ex-colonies britanniques ont leur indépendance monétaire, ce qui n'est pas le cas quand même du Mali. Des colonies françaises. En Afrique de l'Ouest, ici, les États de l'UEMOA, c'est les CFA. en Afrique centrale, les États de la voilà, CEMAC, c'est les CFA également, mais les deux CFA ne sont pas convertibles. Et tout ça, ça, c'est une volonté manifeste de la France pour pouvoir nous manipuler et nous citer le maximum de profits. Ça, c'est vraiment un système de prédation. Il va falloir que, franchement, nos responsables, ceux qui nous gouvernent, prennent conscience et vraiment agissent dans le sens de la défense, de la préservation de nos intérêts pour que nous puissions vraiment exister en tant qu'une nation véritablement indépendante, véritablement souveraine, puisque c'est le domaine régalien, quoi.
Monsieur Diakité, vous êtes du même avis que M. Koulibaly. Nos dirigeants devraient agir pour que nous puissions avoir la souveraineté. Vous êtes du même avis que M. Koulibaly.
Mais vous savez déjà que l'on se proclame pays indépendant. C'est bien normal que nous travaillions à ce que nous soyons souverains. Souverains dans nos décisions, souverains dans nos orientations et souverains sur tous les plans. Et comme M. Bokoum l'a dit, j'apprends beaucoup avec M. Bokoum, il faut le reconnaître, c'est économiquement, nous n'avons pas réellement pensé à ce que nous pouvions faire. Déjà, de un, nous n'avons réellement pas eu de politique par le passé qui ait maîtrisé sérieusement la démographie malienne. Pour parler d'un pays, de ses richesses, de ses capacités, il faut maîtriser sa démographie, il faut maîtriser son peuple. Et maîtriser son peuple ne veut pas seulement dire le maîtriser par les slogans politiques, c'est le maîtriser dans sa nomenclature elle-même, dans sa structuration. C'est-à-dire connaître tel revenu pour telle région, tel projet pour telle région et telle politique visée pour telle région. Ça ne veut pas parler dans le sens de la décentralisation poussée, mais c'était pour permettre à chaque région, à chaque coin de notre pays, de savoir tirer profit au niveau de chaque localité pour construire une économie basée sur la population. Mais nous nous sommes dirigés vers une politique économie d'extraction aurifère qui peut-être a soutenu notre économie. Mais à un moment donné, ça a créé un État employeur. Et ça n'a pas créé une population tellement riche que ça. Donc, à un moment donné, il allait y avoir porte-à-faux. Et la première, d'ailleurs, la première mise en doute de la souveraineté du Mali n'est pas seulement par l'extérieur, mais c'est par ses propres faiblesses intérieures. Donc, c'est cette lacune-là qu'il faut repenser. Et je pense que je suis d'accord avec M. Oumar Koulibaly, dans la limite que, oui, c'est vrai, il nous faut avoir une politique pour réaffirmer encore notre souveraineté. Travailler encore, pas le réaffirmer seulement par la bouche, mais travailler en ce sens que nous soyons nous-mêmes. Indépendant ne veut pas seulement dire chasser les autres, mais il faut faire aussi face aux défis et aux crises endogènes. Et c'est de là que partira la réelle souveraineté auquel nous aspirons. Voilà.
Monsieur Boubacar Bokoum, nous attendons parler maintenant de la Russie. La Russie est venue aider le Mali. Mais qu'est-ce qui lie réellement le Mali à la Russie?
Ben, d'abord, avant que je n'aborde cette question, c'est d'abord de parler, comme les deux collègues l'ont dit, de la gouvernance.
D'abord, on a 45 minutes.
Oui, je vais aller très rapidement, okay. Juste c'est pour faire un lien, okay, pour parler, effectivement, quand on prend la gouvernance, la plupart du temps, nos dirigeants le prennent comme une gouvernance linéaire, alors qu'il s'agit d'un système de gouvernance. Tu as la gouvernance économique, tu as la gouvernance administrative, tu as la gouvernance sociale, tu as la gouvernance politique et religieuse. Et souvent, on a tendance à juste s'accrocher à la gouvernance politique. Et l'administration est truffée d'erreurs. Donc, tant qu'on ne parle pas dans une planification stratégique, on ne peut pas gouverner. Donc, la réflexion, c'est de dire, il faut planifier. Il l'a dit, les éléments qu'il vient de citer rentrent dans le cadre de la réflexion stratégique pour effectivement planifier les actes de développement économique, social et culturel. Ça me paraît être indispensable si on veut être dans un État sérieux. Malheureusement, on n'a pas de grande planification dans nos États. Depuis l'époque de Moussa Traoré, où on avait des plans quinquennaux et tout ça. Donc, à un moment donné, tout cela a disparu. Donc, on n'a pas une planification stratégique en termes de vision réelle. Acter une vision et se donner les moyens pour atteindre les objectifs. Cette planification, aujourd'hui, elle fait réellement défaut. Ça, c'était juste une parenthèse. Maintenant, parler de l'aide par rapport à la Russie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Les grandes puissances se battent pour les ressources et personne ne laisse la place à quelqu'un d'autre, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine. Toutes ces puissances ont besoin des ressources naturelles. Tout le monde est en Afrique pour ses intérêts, pour le développement économique et social de son pays. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Personne n'est amoureux du Mali. Personne ne va venir au Mali parce que nous sommes beaux. Pas du tout. Les rapports sont des rapports économiques. Et je l'ai défini tantôt. Les rapports sont des rapports économiques. Maintenant, je dis les rapports économiques dans lesquels vous subissez parce qu'on vous fait du chantage, parce que quelqu'un détient les clés de quelque chose, notamment la monnaie. Quelqu'un détient votre garantie au niveau des institutions, quelqu'un parle à votre nom, quelqu'un décide de ce que vous devrez être. C'est compliqué. Donc, en réalité, aujourd'hui, les relations que nous avons avec la Russie, c'est de dire, les relations n'ont jamais été rompues avec la Russie. On a des relations avec tout le monde. La Chine, la Turquie, on a des relations avec tout le monde et ça ne s'est jamais arrêté. Mais juste qu'aujourd'hui, nous avons compris que le paradigme dans lequel nous étions, embrigadé avec la France, ne fait plus notre affaire. Et nous avons décidé de donner le privilège à la Russie dans la collaboration, surtout militaire, parce que nous n'avons pas eu les résultats escomptés par rapport à la guerre qu'on a appelée guerre du terrorisme, qui n'est encore pas vraie, qui est une guerre qui a été inventée par le capital financier mondial, notamment l'origine du terrorisme, c'est encore les États-Unis à travers la CIA. Et à un moment donné, ils ont été confrontés à la Russie, qui a été au-dessus obligée de les apporter une réponse. Donc, toutes les grandes puissances organisent leurs services secrets, organisent leurs combats pour leurs propres intérêts. Et c'est ce qui s'est passé en Syrie. Aujourd'hui, c'est les États-Unis et la Russie qui s'affrontent au niveau de la Syrie. Et aujourd'hui, les États-Unis et la Russie s'affrontent au Mali. Donc, c'est ça la réalité de la carte géopolitique. Maintenant, les États-Unis utilisent qui ? L'ancien colon. Et nous, aujourd'hui, nous avons un choix à faire. Est-ce que c'est d'être avec l'ancien colon qui continue à nous brimer pour ses propres intérêts, ou est-ce qu'il faut aller négocier directement avec les États-Unis pour que nous soyons gagnants-gagnants avec les États-Unis, ou est-ce qu'il faut directement négocier avec les Russes pour qu'on soit gagnants-gagnants? Mais c'est la Russie qui nous offre aujourd'hui plus d'opportunités et de clarté dans la collaboration. La preuve en est qu'à un moment donné, le Mali avait commandé un avion aux États-Unis. Donc l'argent a été payé, on a entendu les échos, le ministre des Affaires étrangères est sorti plusieurs fois pour le dire, et on nous refuse cet avion.
L'avion Casa.
Casa. Et de l'autre côté, vous avez un partenaire qui dit, moi je suis prêt à vous livrer si vous avez les moyens de payer. Mais vous pensez qu'on va s'encombrer avec autre chose pour aller vers ce partenaire? On va y aller. Mais ce n'est pas de façon naïve. Il ne faut pas que les Occidentaux continuent à nous infantiliser. On a aujourd'hui mûri, on a compris où sont nos intérêts. On n'est pas russophone, on n'est pas anglophone, on n'est pas francophone, on est malianophone, on est malien. Point à la ligne. Donc il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, nous avons compris là où se trouvent nos intérêts. Tout partenaire qui nous respecte, qui est prêt à nous donner ce que nous attendons de lui, ce n'est pas gratuit. Quand vous voyez nos relations avec un pays comme la Côte d'Ivoire, on parle de couper l'électricité. Mais l'électricité, la Côte d'Ivoire ne nous la donne pas gratuitement, nous la payons. Et aujourd'hui, le développement apparent de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, c'est des investissements français qui sont derrière. Donc, parce qu'au moment de la décolonisation, nous avons assumé des positions qui n'ont pas permis à ces gens de nous aider économiquement en réalité. Et aujourd'hui, un pays comme la Côte d'Ivoire qui pense qu'il est développé, je suis désolé, un Ivoirien n'a pas accès à la richesse. C'est la mafia autour de Alassane Dramane Ouattara et certains financiers qui sont derrière Bolloré, derrière les autres intérêts français qui profitent de cette manière de la richesse. Donc, ce développement apparent qui consiste à avoir des buildings, des grands hôtels, mais l'Ivoirien moyen ne peut pas aller dans ces grands hôtels. Donc, ce n'est pas ça le développement. On parle du développement humain, durable. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, il faut repenser le modèle économique. Il a parlé tantôt des ressources naturelles qui posent problème. Aujourd'hui, il faut comprendre que les ressources, en réalité, ne nous appartiennent pas parce que les terres ne nous appartiennent pas à cause de cette doctrine dont j'ai parlé, du doctrine du titre de propriété des païens et des infidèles. Au moment de donner le permis pour exploiter une mine, on vous donne le permis sur la base de zone libre. Zone libre par rapport à quoi? Ça veut dire qu'il n'y a personne dans cette zone? C'est du mensonge. Elle est libre parce qu'il n'y a pas une multinationale chrétienne ou de nation chrétienne qui occupe cet espace. Premier élément. Deuxième élément, cette richesse, elle n'est pas injectée dans le tissu économique parce que le développement, nous, notamment, c'est l'agriculture, l'élevage et la pêche. Mais ces richesses vont où? Pour faire ce qu'on appelle un budget. Aujourd'hui, on dit que nos ressources nous permettent de financer nous-mêmes notre propre budget. Mais le budget n'est que le fonctionnement de l'État. Le budget est différent de l'économie. Donc, si on n'injecte pas dans le tissu économique pour aller à la création de la richesse, Donc, il faut qu'on puisse créer des mécanismes qui nous permettent de créer la richesse pour avoir la plus-value. Donc, c'est sur la plus-value qu'on construit une économie. Mais on est dans une économie artificielle, entretenue par l'Occident, dont on nous fait croire par un mirage que nous sommes en train de nous développer parce qu'on a créé quelques infrastructures et qu'on nous fait miroiter une monnaie qui est en réalité une monnaie non convertible, une monnaie de singe, à partir de laquelle, effectivement, le CFA est retenu, nous, dans nos banques. Vous allez faire l'inventaire et le tour de nos banques, vous ne trouverez que du CFA, vous ne trouverez pas un gramme d'or. Par contre, en échange de ce billet fabriqué à Clermont-Ferrand, à la Chémalière, nous, on exporte de l'or qui appartient aux multinationales. Donc, vous n'avez pas un mécanisme de création de richesses. Maintenant, pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que si, de façon intelligente, nos dirigeants avaient capitalisé, avaient fait le répertoire des ressources, et qu'on capitalise les ressources pour les injecter dans l'économie réelle, on allait effectivement avoir une croissance. Mais malheureusement, ce sont les multinationales, en complicité avec les dirigeants politiques, qui sont tous des propriétaires et des détenteurs de permis miniers, qui, en collaboration avec d'autres partenaires, dont je ne citerai pas ici, travaille à l'exploitation des ressources et en expropriation des collectivités territoriales. Alors que le droit international minier dit que la souveraineté permanente des ressources appartient aux collectivités territoriales. Donc vous ne pouvez pas exproprier les collectivités territoriales au nom de l'utilité publique et vous voulez avoir la tranquillité, ça ne marchera pas, il y aura toujours une révolution. Et c'est ce qui se passe à Kidal parce qu'à un moment donné, les gens de cette zone ont décidé que l'État central ne peut pas continuer impunément à prélever les ressources. Et c'est ce qui a fait que l'accord a été signé en deux temps. Premier accord qu'ils ont refusé de signer et deuxième accord qu'ils ont signé parce qu'ils ont accepté effectivement le contrat financier. Et ce contrat financier, il est injuste parce qu'il ne s'applique pas aux autres régions. Si Kidal détient une partie de ses ressources en termes d'absorption à la base, il va falloir que Kaye soit dans la même dynamique, Kouloukoro soit dans la même dynamique. Donc il faut un modèle économique qui réponde à l'article 2 de notre constitution qui voudrait dire qu'on n'a pas à privilégier un citoyen par rapport à un autre. Donc si la distribution doit être faite,
monsieur, il faut qu'elle soit juste. Nous allons donner la parole à M. Koulibaly. Le thème du grand dialogue, je vous le rappelle, c'est comment se portent les relations entre le Mali et ses partenaires. Alors M. Sirou Koulibaly, M. Bokoum a parlé de partenaires qui nous respectent. Pensez-vous que la Russie est ce partenaire aujourd'hui?
Ah, tout à fait, sans embâche. Tout à fait. Au fait, tout le monde, quand on suit un temps soit peu la marche du monde, l'actualité, c'est toute l'actualité politique du Mali, le bras de fer qui a opposé et qui continue d'opposer le Mali à la France, on se rend aisément compte que le discours prôné par les officiels français, c'est un discours dévalorisant vis-à-vis de nous. Il l'a dit, c'est comme s'ils sont en train quand même de nous infantiliser, de nous humilier en tant que nation indépendante, en tant que peuple fier. On va interroger un peu l'histoire par le passé, au temps de l'Empire du Mali. L'Empire du Mali, c'était l'empire le plus riche du monde. Hein. Et le Mali est bâti sur les cendres de l'Empire du Mali, l'empire le plus riche du monde. Le Mali a des ressources vraiment naturelles qui sont vraiment incommensurables, mais en réalité, est-ce que le pays en profite? Non. Le Mali est peut-être le troisième producteur africain d'or, mais le Mali n'a pas de réserve d'or, mais pourtant la France en a. La France ne produit pas de l'or. Donc ça, c'est vraiment un système de prédation, de spoliation. C'est comme la loi de la jungle, quoi. Et c'est des carnivores. Nous sommes des herbivores. On veut pousser des dents pour manger de la viande, mais ils nous empêchent. Ils veulent nous casser les dents. Bon, la Russie, par rapport... ce qu'il faut dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la priorité numéro un du Mali, pour que le Mali puisse même exister en tant qu'État, en tant que nation, ça c'est la sécurité. Le Mali ne se résume pas à Bamako. À l'intérieur du pays, il y a tellement de villages qui ont été rasés de la surface de la terre, des centaines, des milliers de civils assassinés froidement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne connaissent ni les tenants ni les aboutissants quand même des enjeux même de la géopolitique. C'est des victimes collatérales. Donc la priorité numéro un du Mali, ça c'est la sécurité. Raison pour laquelle nous sommes des hommes politiques. Hein. Par définition, un homme politique, c'est pour la conquête du pouvoir. On n'est pas quand même pour que les militaires s'éternisent au pouvoir. Mais tant qu'ils font quand même l'affaire du pays, vraiment nous les supportons. C'est tous les Maliens qui les supportons. Mais nous voulons quand même un retour à l'ordre constitutionnel, mais il faut que le pays quand même soit mis sur les rails et que nos partenaires traditionnels, notamment la France, les Occidentaux de façon générale, nous respectent. C'est tout, c'est aussi simple que ça.
Moussa Nabi Diakité, on peut se fier à la Russie?
Alors moi,
voudrais dire, on dit toujours que les bons comptes font les bons amis. Mm-hmm. Et je crois que c'est cette coopération qui nous a réussi. Parce que nous payons. C'est carte sur table. Nous avons une coopération privilégiée avec la Russie dans un domaine par excellence. Ça, c'est l'armement. Cela ne date pas d'Assimi Goïta, ni de la transition. Mais cela date depuis les premières heures de notre indépendance. Tout à fait. Cela a continué jusqu'à Moussa Traoré, sous Alpha, sous ATT, sous Djongunda et jusqu'à aujourd'hui. De un, ça partait de la formation militaire, où nos Maliens, les militaires maliens avaient des bourses, ou même actuellement des bourses, à la personne du colonel Sadio Camara. Il était étudiant à Russie jusqu'au coup d'État. Il est juste venu pour les vacances et ils ont perpétré le coup d'État en 2020. Nous avons toujours eu ce partenariat militaire. Mais la Russie aussi a une économie qui fait qu'elle ne peut pas remplacer la coopération française sur le plan économique. Parce que la Russie a une économie qui ne soutient pas, qui n'est pas aussi forte que l'économie française que nous soutenons et à laquelle nous contribuons. Maintenant, deuxièmement, la Russie seulement n'est pas seulement notre seul partenaire. Nous avons d'autres partenariats. Mais ça dépend de l'importance et des apports des autres partenaires. Par exemple, depuis 1960, nous avons un partenariat médical avec le Cuba, où nous envoyons des étudiants apprendre, où ils envoient des missionnaires, souvent des évangélistes, pour venir dans nos centres, dans nos hôpitaux. Et c'est ce partenariat aussi que nous entretenons avec l'Iran. D'ailleurs, le président iranien, Ahmadinejad, l'ancien président, est une fois venu au Mali ici, où il a fait d'importants dons.
Nous entretenons une délégation
qui est là actuellement, ministre des Affaires étrangères, et qui ont fait don de près d'un million de doses de vaccins, même Covid, au Mali. Et par ailleurs, nous avons des coopérations avec la Chine depuis 1960, où d'ailleurs même Modibo Keïta a eu le privilège d'être le premier président africain, ou le seul d'ailleurs, que Mao Zedong a conduit jusque dans sa chambre, dans le palais impérial chinois. Ça veut dire que nous avons toujours entretenu des bonnes relations de coopération avec les autres. La Russie peut être partenaire fiable, mais sur quel plan? Sur le plan militaire, pour asseoir notre souveraineté sur notre territoire, pour nous aider à recouvrer l'intégrité de notre territoire. Oui, il n'y a pas de souci. La Russie est un partenaire fiable en ce sens, puisque la coopération, elle a démontré ses capacités. Mais maintenant, sur d'autres plans, est-ce que la Russie aussi ne serait pas un partenariat nocif en d'autres termes? Ça peut l'être aussi. Si la coopération économique ne nous a pas aidé à avancer sur certains plans, la coopération militaire aussi, oui. Parce que l'erreur que nous faisons, c'est de prendre cette coopération militaire comme quelque chose qui a déjà été gagné. Le développement, ça s'accompagne de plusieurs sécurités. Ce n'est pas que les militaires détenaient des armes. Mais comme l'a dit M. Bokoum, j'apprends toujours de lui, il y a la sécurité sociale humaine. Quelles qu'en soient nos acquisitions, quel que soit le bénéfice de cette coopération, il nous faut aussi œuvrer dans d'autres. Ou nous ouvrir à d'autres partenariats. Et tout cela, il ne faut pas les fermer. Parce que le Danemark, le Canada, la Banque mondiale, l'Union européenne sont en partenariat avec le Mali sur le plan du développement humain d'ailleurs, qui financent des projets dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation. Donc il faudrait voir, quand même, il faut quantifier l'apport. Les apports, mais aussi très bien définir les actes de coopération. Et aussi faire attention à ne pas quitter un maître pour aller nous soumettre à d'autres maîtres encore. Puisque, quand on quitte un, on va se mettre sous la protection de l'autre, c'est comme si nous n'avons pas la capacité d'être nous-mêmes, mais de toujours nous référer soit à ce qui est passé, soit à celui qui est fort. Et rien ne nous empêche pourtant d'être fort. Donc, comme M. Bokoum l'a encore dit, moi je le redis toujours, nous n'avons pas, quand on parle de budget ou tout comme ça, ça c'est pour le fonctionnement structurel de l'État. Ça c'est normal, c'est statique. Ça n'évolue pas. Mais il faut privilégier le développement dans l'humain, dans le malien. Et cela, aucun partenaire ne le fera, que ce soit la Russie ou pas. Mais je suis d'accord quand même si M. Sekoumarou dit que le partenaire avec la Russie, c'est bon, il n'y a pas de souci. Nous le soutenons. Si ça nous permet de rétablir notre intégrité territoriale, nous le soutenons. Mais nous pensons que d'autres partenaires aussi nous ont été bénéfiques, peuvent nous être bénéfiques, et cela, il ne faut pas aussi réduire quand même aux annales de l'histoire.
Ne pas quitter, on est pratiquement à la fin de l'émission, il ne reste plus que 5 minutes.
Très rapidement.
Okay.
En réalité, il ne s'agit pas
quitter
de quitter
un maître pour aller se soumettre. Voilà.
En réalité,
vous
il s'agit pas de ça. Oui. On ne quitte pas un maître pour un autre maître.
Voilà.
On change de paradigme et de partenaire. Il ne s'agit pas d'être maître. Nous n'avons jamais accepté que la France soit notre maître. Ils l'ont été par les faits historiques. Et ça, nous ne pouvons pas reprendre l'histoire. Et l'autre chose que je rectifie, c'est que la France n'est pas au-dessus de la France, de l'URSS économiquement ou de la Fédération de Russie économiquement. Ce n'est pas vrai. J'ai eu le privilège d'y être dans les années 80-90, où effectivement, l'Occident a comme message, c'est des pauvres types, ils n'ont rien, parce qu'ils ne sont pas dans l'économie du bloc de l'OTAN. Et l'économie est manipulée par le FMI et la Banque mondiale à travers des codes. Si tu as vu récemment avec la crise d'Ukraine, on a dit on leur retire le code SWIFT pour les éviter de rentrer dans l'économie mondiale. Et c'est un piège, c'est un chantage, ça n'a rien à voir avec la richesse. La Russie est un scandale géologique, un pays immensement riche. Donc ils n'ont rien à envoyer à la France. La France est un petit pays, un pauvre pays, ils n'ont rien. Maintenant, ils sont dans la manipulation.
Je vous ai dit, l'économie, c'est vous qui avez contribué à
la France. Non, je comprends parfaitement bien. Je voulais juste corriger le fait que, effectivement, la Russie n'est pas à ce niveau et économiquement, ils peuvent être très utiles pour nous. C'est pour vous dire que nous, nous comprenons la défense comme étant sur trois pieds. La défense économique, la défense civile et la défense militaire. Nous sommes en train de résoudre la question de la défense militaire aujourd'hui avec l'axe de la Russie. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de développer l'axe économique avec un pays comme la Chine? Que d'ailleurs, un pays comme la Chine, que ces mêmes Occidentaux disaient pays sous-développé il y a 2 ou 3 ans. Donc, ils ne reconnaissent pas la valeur des gens parce qu'on aime faire la propagande du dénigrement. Nous, aujourd'hui, nous sommes tous achetés par la junte, d'après eux. Les médias maliens sont achetés par la junte. C'est nous qui défendons cette posture que moi, j'ai commencé ce combat depuis 2005. Pendant que cette junte, entre guillemets, n'était pas là, on va nous dire encore que nous sommes en train de soutenir la junte. Mais il faut qu'on arrête. À un moment donné, il faut que les Occidentaux apprennent à comprendre une chose. Nous avons subi, à travers des dirigeants indignes de la fonction de chef d'État.
Tout à fait.
Maintenant, nous sommes dans une posture où nous disons que nous voulons réaffirmer cette dignité et que nous voulons être nous-mêmes. Donc, nous changeons les règles du jeu. La défense économique, nous allons l'obtenir parce que nous avons suffisamment de ressources sur lesquelles désormais il va falloir quitter le franc CFA et très rapidement. Ça, j'invite nos autorités à le faire. Il ne faut pas qu'ils aient peur de l'espace CDAO. L'espace CDAO, l'intercommunautaire ne fait pas plus de 7%. L'UMOA, on n'a pas plus de 7%. Alors que dans l'échange commercial, on a plus de 40% avec un pays comme la Chine. Donc, il faut qu'on arrête.
La CDAO et l'UMOA même constituent des dangers pour le Mali.
Alors, donc, vous le pensez. Oui, mais bien sûr, c'est un danger énorme.
C'est un autre débat.
Non, non, non. C'est un rêve idéal que nous avons engendré au niveau des années 60. Le premier élément, quand nous avons eu nos indépendances, on a dit qu'on a été balkanisé par 1885. Il fallait être unis. On a fait une tentative de l'Organisation de l'Unité africaine, qu'ils ont noyauté de l'intérieur. Nous avons voulu avoir des regroupements régionaux pour nous permettre effectivement de soutenir notre économie et d'être soudés. C'est ce qui a amené l'UMOA, c'est ce qui a appelé la CDAO. Mais ils l'ont noyauté de l'intérieur, donc ça n'a aucun sens aujourd'hui pour nous de rester dans des machines qui servent d'autres pays.
Vous avez la parole, M. Sekou Oumar Koulibaly.
Je vais continuer sur la même lance que M.
Oui, il faut quel genre de partenaire pour le Mali aujourd'hui?
En tout cas, le Mali a une démocratie, et une diplomatie ouverte. Nous sommes favorables quand même à tout partenaire qui veulent quand même nous respecter et que ce soit quand même dans une relation de gagnant-gagnant. On n'est même pas fermé à la France. Hein. Militairement, ça ne va pas avec la France puisque bon, c'est le Mali qui a fait appel à la France. Au moins, c'est un dirigeant du Mali qui a fait appel à la France pour venir nous appuyer.
Aujourd'hui entendu, il doit répondre.
Voilà, pour venir nous appuyer par la voie aérienne, mais ça a été finalement une armée d'occupation, donc qui n'a pas pu quand même atteindre les objectifs auxquels il s'était assigné. Donc on a dépendé de leur départ et on veut quand même aller avec la Russie. Mais pas que la Russie seulement. Si l'Iran est là aujourd'hui, on sait qu'en matière de fabrication des drones, l'Iran compte, même la Russie aussi a besoin de l'Iran.
Et la France ne veut pas que vous ayez des drones.
Voilà, la Russie a besoin des drones de l'Iran. Nous aussi, Maliens, nous avons besoin des drones de l'Iran. Mais nos experts sont là quand même pour pouvoir débattre de tout ça et voir le meilleur profit à tirer pour le Mali.
Le meilleur profit à tirer pour le Mali, c'est avec la Russie, vous le pensez?
Le meilleur profit à tirer pour le Mali, c'est avec les Maliens, avec le Mali. Quels que soient nos partenaires, quels que soient leurs apports, privilégions toujours la piste et la carte Mali. La souveraineté nationale est la base de toutes les coopérations nécessaires. que ce soit avec le Mali, que ce soit avec la Russie, que ce soit avec les autres. Mais soyons respectueux dans nos partenariats et imposons le respect dans notre attitude. On dit que l'homme est plus tenu par ses vices que par ses vertus. Soyons des vertueux, ayons une gouvernance vertueuse pour nous permettre d'être objectivement centrés sur les intérêts de nos concitoyens. Ça, c'est la seule chose qui peut nous assurer ce que nous cherchons.
Voilà. Merci d'avoir participé à ce débat. Nos invités étaient M. Boubacar Boukoum. Il a son parti politique. Il est le président de ce parti, d'ailleurs, qui est le PAIS, Parti africain pour l'intégration et la souveraineté. C'est bien prononcé cette fois-ci.
Bien, merci, madame.
Avec lui, M. Sekou Oumar Koulibaly. Il est le troisième vice-président du parti FMR. Faso Dambé, j'y arrive finalement.
Front malien du Renouveau.
Voilà, c'est une question d'habitude. FMR Faso Dambé. Et Moussa Nabi Diakité, qui est membre du mouvement politique de la génération engagée. Moi, Mariam Koulibaly, j'ai eu le plaisir de vous présenter ces débats dont le thème était comment se portent les relations entre le Mali et ses partenaires. Le débat a été coordonné par Mouamadou Touré. À la régie, il y avait Gagné Kanté et Salim Diouara. Merci de l'avoir suivi et à demain.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Niberi.
Halou Moundi.
Chien Niberi. Sigi Kafoba.